Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 22 novembre 2020 et je voudrais approfondir quelque peu les notions qui ont été soulevées la dernière fois concernant notamment la parachat Toledot. D'abord, je vais me référer à un de mes maîtres, le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, Manitou, dans son livre Ki Mitzion, paru après sa mort, en 1996, à la page 76 et suivante. Le Rav explique un point fondamental. D'abord, les engendrements provoquent l'histoire, et notamment l'histoire universelle. L'histoire événementielle, la vie de tous les jours, qu'elle soit individuelle, collective, internationale, cette histoire fait bien entendu partie de cette Toleda, cet engendrement. Mais le Rav veut signifier que les engendrements sont d'abord source d'une dynamique profonde qui mène l'humanité d'un point A vers un point Z. Toute l'histoire de l'humanité est en fait une histoire de l'engendrement du Père par rapport au Fils. On le retrouve évidemment à partir d'Abraham, jusqu'à évidemment le Machiav ben David. Abraham, Olid, et Yitzhak. Et à partir d'Yitzhak, il ne va pas y avoir, bien entendu, automatiquement, directement, le Mashiach ben David, bien que ce Mashiach descende d'Yitzhak, on l'a vu, mais il va y avoir toute une dynamique historique qui est faite de contradictions, de difficultés, d'épisodes plus ou moins douloureux. Le but, on l'a vu, on le sait, c'est la réparation de la faute d'Adam Harishon. Et le peuple d'Israël, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est un instrument fondamental de l'histoire permettant le déroulement des événements événementiel, mais inclus, intégré dans cette méta-histoire, cette histoire qui est cachée, qui est, si vous voulez, lourde, mais qui est pleine de signification. Maintenant, un point aussi qui me paraît fondamental. Yitzhak va avoir deux enfants. Deux enfants, évidemment, avec la même femme, Rivka, Esav et Yaakov. Deux enfants jumeaux. Le Shem Mishmuel, c'est un commentaire extrêmement important qui rapporte de nombreux secrets de la Torah, compare Yaakov et Esav à l'arbre de vie et à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Yaakov étant lié à l'arbre de vie, Esav, Esaü, étant lié à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chacun, donc, vous voyez, a un rôle distinct. Comme si que leur but était d'arriver à recoller, à relier les deux arbres. Et de nombreux midrashim, de nombreuses explications de nos maîtres, expliquent que Rivka ne comprenait pas ce qui se passait dans son ventre, parce que elle était sûre que allait sortir d'elle un être, mais un seul être, qui portait en lui les deux mondes. Le monde dit de la connaissance du bien et du mal, et le monde de la vie, de manière à reconstituer le Pardès, reconstituer le Gan Eden. Et lorsque HaKadosh Baruch Hu est intervenu et lui a dit, après de très profondes douleurs de Rivka, parce que les deux mondes sont entrechoqués, il lui a dit que deux peuples vont sortir de là. Alors, Yitzhak a compris que, en fait, les deux peuples vont avoir deux fonctions. Le premier peuple descendant de Yaakov aura une fonction pleinement spirituelle, et le deuxième peuple descendant d'Ésaü aura une fonction éminemment matérielle. En fait, les engendrements, les maîtres du Sod ont fait remarquer que, et on l'a vu l'autre fois, Yaakov avait la vocation spirituelle, mais il avait aussi une vocation dans ce monde-ci du monde matériel. Et Israël, c'est cette capacité à travers la Torah, à travers l'étude, bien entendu, mais sous les ordres d'Hachem, de développer le monde matériel. Et cela a été confirmé par la voix de Rivka à son mari, par la providence directement. Yaakov et Esav, qui, entre guillemets, portaient deux mondes distincts, portaient deux mondes contradictoires, devaient absolument arriver à l'unité. Esav avait cette capacité d'utiliser les forces spirituelles de Yaakov qui étaient en lui pour développer le monde matériel. Et Yaakov avait, si vous voulez, selon le Shem Mishmuel, la capacité, par l'arbre de vie qui était en lui, d'élever la matière, je dis bien d'élever la matière au plus haut niveau spirituel. C'est-à-dire que cette rencontre des deux frères est une rencontre décisive. Mais un point doit être précisé ici. Esav est une échama, certes, très très élevée, douée de la capacité de réalisation. On pourrait dire même ancêtre du roi David. Le roi David est des roues comme Esav. Et certains commentateurs disaient que le roi David ressemblait à Esav, à Ésaü. Mais le roi David était à la fois un homme de guerre, quelque part impitoyable contre les ennemis d'Israël, mais aussi pleinement, ô combien pleinement, un homme de Torah. Le roi David est un être absolument unique. Il faisait la jonction entre le monde d'Esav, d'Ésaü, et le monde de Yaakov. Et cela, toujours, toujours connecté à l'absolu. Toujours connecté à Dieu. Un point fondamental me paraît ici nécessaire de rajouter. Les générations descendant d'Esav, d'Ésaü, ne sont pas toutes, et loin de là, haineuses contre Israël. Dans les populations, aujourd'hui on pourrait dire occidentales, chrétiennes, de très nombreux individus sont amis d'Israël, sont portés même par un amour très profond d'Israël. Beaucoup d'entre eux sont capables et sont prêts à mourir pour Israël. Ce qui est en doute, ce qui est en jugement et qui sera en jugement, selon le prophète Ovadia, qui lui est d'ailleurs un guerre, un converti, descendant d'Ésaü. Selon ce prophète Ovadia, le monde des Saves, dans son idéologie, dans sa pensée haineuse, dans son idéologie perverse, dans son idéologie rusée, c'est ce monde-là qui va être détruit. C'est-à-dire, véritablement, il ne s'agit pas de détruire tout le monde occidental, il s'agit de détruire les forces qui sont pénétrantes et qui ont profondément pénétré le monde occidental, que ce soit au niveau des individus, comme au niveau de l'Assemblée, comme au niveau de la masse, mais il est évident que les individus qui n'ont pas atteint le niveau des Dômes, c'est-à-dire le niveau de la haine absolue, le niveau même d'Amalek, ceux-là seront évidemment recueillis, sauvés par Hachem et seront, si vous voulez, les descendants d'un Esav repenti. Alors ça, c'est très très important de comprendre. Il ne s'agit pas du tout de détruire l'Occident en tant que entité. Il s'agit de détruire les forces négatives, les forces haineuses, les forces qui se battent contre Dieu, puisque la bataille contre Israël, la haine d'Israël, en fin de compte, la représentation de la haine de Dieu, ce n'est qu'une extériorisation de la haine de Dieu. À partir du moment où Esav devient Édom, à partir du moment où Esav, par Eliphaz, produit Amalek, alors il est évident que Esav doit être détruit dans son côté amalécite, dans son côté haineux. Il porte en lui les forces de l'obscurité, les forces du plaisir pour le plaisir, les forces du désir pour le désir. Mais il est évident que les individus, aujourd'hui appelés occidentaux qui s'y réfèrent, ne sont pas tous des ennemis d'Israël. Loin s'en faut. Ils sont en fait manipulés par les forces, désinformés par les forces. Amalécites, les forces d'Édom qui sont incluses dans le message qu'ils reçoivent. Alors, pour finir, il faut bien comprendre que c'est d'Abraham que descend, comme dit notre maître Manitou, le Rav Ashkenazi, la Géoula, à partir de Yitzhak. Et nous savons que les démembrements, que les engendrements sont des engendrements des civilisations, excusez-moi, je ne trouve pas le mot, des civilisations. Chaque civilisation prépare la prochaine. Chaque civilisation, elle meurt et elle prépare la civilisation qui suit. Et la civilisation de la fin des temps, c'est la résultante de toutes ces civilisations qui se sont, si vous voulez, rajoutées les unes aux autres, de manière à former enfin la fin de l'histoire, c'est-à-dire la civilisation qui va porter en elle l'ensemble des résultantes des civilisations dans le bien, puisque à ce moment-là, le mal sera détruit, afin de faire pénétrer à chacun d'entre nous la connaissance de Dieu, maître de l'histoire. Et pour finir, vraiment, un individu économiste qui s'appelait Joseph Alois Schumpeter, qui a eu le prix Nobel après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, qui a été un Autrichien professeur d'université, qui a fui l'Allemagne nazie, qui s'est réfugié en Amérique, qui a été professeur dans les grandes universités américaines, a écrit de nombreux livres, dont un qui allait expliquer les sources de la croissance économique, les sources du progrès économique, les sources du progrès et de la dynamique de la production productive. Et il précisait qu'il y avait dans les civilisations un processus de destruction, création. Il y avait ce qu'il appelait des grappes d'innovation qui font qu'une civilisation au niveau technologique, au niveau économique prospère, puis ces grappes d'innovation vont être dépassées par le progrès technique et vont être, si vous voulez, en désespérance, elles vont progressivement être effacées, puis il va y avoir de nouvelles grappes d'innovation, mais qui sont aussi la résultante des anciennes, et ainsi de suite. Le processus de destruction créatrice est pour Joseph Schumpeter le processus de la vie et de la dynamique économique. Merci beaucoup.